Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui vendredi pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, 127e numéro aujourd'hui, 127e épisode en ce début du mois de décembre marqué par le début du calendrier de l'Avent. Alors je vous invite à rester attentif sur les réseaux car j'ai des cadeaux à vous offrir jusqu'à Noël afin de vous récompenser de vos écoutes fidèles. Alors pour cela, il faut vous abonner sur Facebook mais surtout sur Instagram, donc ayez l'œil et surveillez la page À côté de mes pompes. Alors en cette première quinzaine de décembre, j'aurais dû me reposer entre guillemets, avec une seule course planifiée, positionnée le 31 décembre dans mon village natal de Bonneval en Eure-et-Loire. Or, bah, j'ai gagné un dossard pour la course des Trois Ponts à Orléans. Je serai donc au départ de cette course nocturne de 10 km débutant à 20h30 au pied de la cathédrale samedi prochain, samedi 10 décembre. Alors après avoir connu un volume de courses très important sur ces 4 derniers mois depuis l'été, avec des dossards, des chronos, des compétitions, de nombreux entraînements, eh bien pas plus tard qu'hier jeudi, j'ai effectué un passage chez ma chiropracteur à titre préventif. Je serai donc d'attaque la semaine prochaine pour accrocher ce nouveau dossard, ma hanche, mon bassin, et mes cervicales étant de nouveau dans un alignement correct. Il y avait quand même du boulot sur cette séance, donc de chiropraxie. Alors durant ce mois de décembre, des activités de renfo viendront compléter mes séances de course à pied parce que ce travail invisible demeure quand même un atout pour préserver le corps des blessures. C'est un échange qu'on a pu avoir avec donc cette praticienne. Et puis l'hiver, on a parfois un petit peu moins envie de sortir. C'est un bon moyen de compléter son entraînement en course à pied. Donc je vais m'astreindre à une certaine régularité dans ces séances de renfo qui, je le sais, seront bénéfiques pour le printemps prochain. Lorsque l'on est coureur à pied, comment faire appel aux marques et tester des produits en lien avec notre passion favorite qu'est le running? C'est la question posée à mon invité du jour, Damien Sidou. À 40 ans, ce coureur stéphanois, amateur de sport, depuis sa plus jeune enfance, a découvert la course à pied il y a moins de 10 ans. Adepte de longue distance, il pratique le trail. D'ailleurs, dès demain, samedi 3 décembre, si vous écoutez le podcast en ce vendredi de décembre, vous pourrez le suivre sur la Saint-Élion. Damien sera accompagné d'un coureur handicapé et avec 3 autres binômes de coureurs également valides et handicapés, ils auront pour objectif de passer la ligne d'arrivée dans la halle Tony Garnier de Lyon. Alors à travers cette passion du running, Damien s'est peu à peu mué en créateur de contenu sur les réseaux sociaux, Instagram et YouTube. Il reçoit et teste des produits, des équipements destinés au running. Par son témoignage, vous allez donc découvrir l'envers du décor de cette activité, quelque peu encombrante au dire de son épouse, et vous comprendrez pourquoi il s'est lancé dans cette activité digitale en parallèle de sa pratique de la course à pied. En tire-t-il des revenus? Quelles sont les attentes des marques? Alors merci Damien de t'être livré en toute transparence sans éluder aucune de mes questions. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Damien Sidou. Running, testing produits et création de contenu, c'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonsoir Damien, merci d'être l'invité du podcast. Alors j'accueille un homme de médias, trailer, qui est en préparation, alors à quelques encablures de la Saint-Élion. C'est le gros événement de ta fin d'année 2022, Damien. Merci d'être l'invité du podcast ce soir.
Merci à toi de m'avoir invité sur ton podcast. Ça me fait vraiment plaisir. Moi, je suis beaucoup ce que tu fais depuis un petit moment. Donc, je suis ravi, effectivement, que tu puisses aujourd'hui t'occuper de moi, si je puis dire. Et comme tu l'as dit, oui, homme de médias, je sais pas. En tout cas, un passe-temps, certainement. Et c'est plutôt plutôt intéressant d'ailleurs. Donc on aura le temps d'échanger là-dessus. Et également, bah, tu parlais de la Saint-Élion. Oui, on est à J-10 d'un événement pour nous qui est exceptionnel, pour la course aussi, parce que ça serait une première historique. C'est d'amener, ben, tout simplement, en relais, un binôme d'handisport. Donc voilà, ça n'a jamais encore été fait et ça va être magnifique.
Alors, Saint-Élion, est-ce que tu peux rappeler d'où vous allez partir? Quelles vont être les conditions de course? Ça se fait peut-être à une heure particulière. Avec quelle distance?
Oui, alors, la Saint-Élion, historiquement, donc comme son nom l'indique, c'est un départ de Saint-Étienne pour arriver à Lyon, à la Halle Tony Garnier, qui est une salle de concert, qui historiquement était des abattoirs, et qui passe à travers ben, les monts du Lyonnais. Qui en principe avec en termes de kilomètres on est aux alentours de 78-80, ça varie un petit peu chaque année plus ou moins. Nous on va le faire en relais à 4 et donc la particularité de cette course en fait c'est qu'elle se déroule la nuit et donc toujours à la Sainte-Barbe, donc entre le 2 et le 3 décembre. Enfin toujours le premier week-end de décembre en tout cas, et chaque année les conditions sont systématiquement différentes, donc c'est ce qui fait le charme de cette course qui a failli disparaître il y a 65 ans parce qu'effectivement pour un problème ben, d'engouement donc c'est on appelle la doyenne, mais parce qu'elle est beaucoup plus vieille que les 65 éditions que peut proposer aujourd'hui la ZIX Saint-Élion.
Il y a que sur le trail et sur la course à pied que l'on peut mêler Saint-Étienne et Lyon. Dans d'autres sports avec un ballon rond, c'est moins possible.
Alors on peut les mêler. D'ailleurs, ça s'entremêle même, j'ai envie de dire sur le terrain. Mais effectivement, voilà, les deux localités ont vraiment leur identité. Et donc c'est aussi ce qui fait le côté, on va dire, enfin l'engouement des derbies. Alors même si actuellement c'est plus difficile et pour Saint-Étienne et pour Lyon, parce que d'ailleurs Lyon est un peu triste d'avoir perdu son derby, son derby rhône-alpin. Donc voilà. Donc c'est vrai que pour nous c'est aussi un crève-cœur.
Damien, je t'ai pas laissé te présenter. On a tout de suite attaqué dans le vif du sujet avec la Saint-Élion. On va revenir un petit peu en arrière que tu évoques aux auditeurs qui tu es, d'où tu viens. Donc Saint-Étienne, c'est peut-être pas ta région de naissance, quoique. Qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu as fait avant d'être aujourd'hui quelqu'un qui passe à la télé? Raconte-nous tout ça.
Alors tout simplement, donc j'ai aujourd'hui 40 ans, puis peu d'ailleurs. Je suis marié, j'ai deux enfants, j'ai surtout un job à côté. Donc la création de contenu, la télé, c'est pas mon job premier en fait, parce que moi je suis responsable de secteur dans le milieu de l'assurance. Donc ça a vraiment rien à voir avec les médias. Et en fait, je me suis mis à la course à pied que très récemment, il y a 6-7 ans maximum. Même pour tout vous dire, avant, je détestais ça. Et puis, au final, avec des amis, on a commencé à se challenger. Et puis, étant challenger dans l'âme, on a progressé. Et puis, on a été sur des formats un petit peu plus longs, toujours plus longs, toujours accompagnés. Et je me suis en fait aperçu que finalement j'avais gardé mon mental de gagneur quand je faisais du sport co quand j'étais plus jeune, et du coup il y a beaucoup de courses qui se font au mental, et c'est ce qui m'a projeté un petit peu alors sur la création de contenu, parce que du coup vu que j'étais un papa poule qui était plutôt bankable pour les marques, et on y reviendra peut-être plus tard. Ben, j'ai commencé à faire la création de contenu avec des produits qu'on m'offrait en fait, ce que je fais toujours d'ailleurs. Et de fil en aiguille, j'ai été invité par le journal L'Équipe à faire la quatrième de couverture du journal. Donc là, c'était il y a deux ans, au mois de juillet, donc c'était ça, une opportunité exceptionnelle. Et toujours pareil, pour mettre en avant un sportif, on va dire, normal, voilà, donc j'ai aucune prétention d'être un champion. D'ailleurs, il y a même certaines marques qui me le reprochent un petit peu. Mais c'est pas mon ADN, c'est pas d'être le meilleur, c'est de me challenger en fait et d'arriver à progresser et, au fur et à mesure et continuer à prendre du plaisir dans ce que je fais. Et derrière. Donc ça m'a ouvert les portes de Telset qui cherchait effectivement un chroniqueur à cette époque-là. Donc ça a un petit peu matché avec en fait j'avais deux options, j'avais Radio Scoop et Telset et Telset est venu me voir, le feeling était super bon, l'équipe est un peu à mon image, donc du coup ça colle bien et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Et à travers Telset, donc on fait une émission de sport qui est en direct tous les lundis à 7h30 hein, donc sur la chaîne donc ligérienne. Et on parle de tous les sports, donc voilà, c'est pas élitiste, au contraire, on est plus sur du sport divertissement, on a nos invités, c'est simplement que c'est très régionalisé. Donc on passe un bon moment.
Tu disais avoir découvert la course à pied tardivement, il y a 6-7 ans. Comment c'est venu à toi? Comment ce sport s'est révélé être aujourd'hui ta passion? Tu te sentais en fin de carrière dans les sports collectifs, donc tu t'es dit, il faut que je bascule sur une reconversion, sur une autre activité, et ce fut la course à pied et le trail. Directement le trail, t'as pas expérimenté d'autres courses bitume?
Alors j'ai jamais fait du très court en fait pour revenir un petit peu sur le parcours, c'est vrai, le parcours sportif, en fait j'ai fait beaucoup de sport dans ma jeunesse j'ai aussi beaucoup bougé professionnellement, j'ai fait deux trois régions différentes et quand je suis parti de ma région donc natale qui est effectivement la région de Saint-Étienne et mon club il fallait qu'effectivement je me remette à retrouver un club, puis après je 2-3 ans après je changeais, donc reprendre un club etc, et c'était assez chronophage, c'était assez difficile, chronophage aussi pour ma famille, donc du coup j'avais un peu mis ça de côté et pendant 3 ans j'ai pas vraiment fait de sport spécifique on va dire, je faisais de la remise en forme mais c'est tout. Et je suis arrivé en fait à Dijon par une mutation professionnelle et j'ai rencontré un ami, enfin même plusieurs d'ailleurs, que j'appelle mon coach et qui nous a tout de suite challengé. Et au début je voulais pas y aller parce que l'écart était trop grand entre lui et moi et du coup je voulais pas passer pour un idiot, donc je refusais et puis là j'ai un deuxième copain qui m'a dit allez bah viens on y va ensemble, on démarrera etc. Et lui, son kiff, c'était effectivement le trail. Donc, du coup, on a démarré sur les hauteurs de Dijon, en commençant à faire 5, 10, 15. Et puis après, pour ceux qui connaissent effectivement la région bourguignonne et le Mont-Afrique, on est parti jusqu'au Mont-Afrique, qui est en fait une tour très visible quand on est à Dijon sur les hauteurs. Et donc du coup du lac Kyr qui est le lac de Dijon, il y a une vingtaine de kilomètres, donc voilà, donc ça donne un petit peu le parcours aussi sur 3-4 ans de progression que j'ai pu avoir sur la course à pied, sur le trail. Et puis en parallèle, effectivement à Dijon il commençait à y avoir des courses sur route et donc moi aussi j'aimais bien me challenger sur le temps aussi et voir ce que j'étais capable de faire. Et donc en commençant à m'entraîner, je me suis mis des challenges, puis après je suis allé sur le Running Lyon, sur le 10 km plusieurs fois pour essayer de progresser sur le temps. Et ensuite je trouvais que c'était un petit peu rébarbatif de faire du 10 km et donc du coup j'ai voulu essayer, toujours avec un de mes amis qui est Mathieu, que j'embrasse ici dans ce podcast. On est parti sur des semis. Et là, on se donnait des allures à respecter, etc. Et alors chaque fois, on arrivait, on était rincé parce qu'effectivement, on n'avait pas encore une habitude de ces distances-là. Et puis, au fil du temps, aujourd'hui, je peux presque dire que c'est une distance qui me va bien, quoi. Le 20 km, ça m'allait bien. Et puis, il y avait un gap avec le marathon. Et donc, marathon, maratrail, etc. Et là, je me suis dit, t'es quand même capable de le faire, quoi. Tu peux te challenger, voilà. Et là, quand je dis ça à mon copain, copain, il me dit non, là, je ne peux pas te suivre, c'est pas possible.
Quoi. Il ne validait pas cette marche.
Lui, il validait pas la distance.
Voilà, c'est ça. Assez importante du 20 vers le marathon.
C'est ça. Il me disait que finalement, c'était peut-être un peu trop vite, etc. Et je lui dis, écoute, on est quand même bien sur le semi, on est quand même costaud, on court assez régulièrement. On peut y arriver en étant dans un temps raisonnable. Et donc, l'idée, c'était déjà la première fois de le finir, puis après, d'essayer de progresser. Et donc aujourd'hui, et puis j'avais surtout un but ultime, en fait, qu'il faut que je vous dise, c'est que moi, mon idée, en commençant le marathon, c'était de réaliser le marathon Athènes Marathon, l'authentique, en fait. Et je voulais faire ça. Mais je voulais faire ça en étant préparé et en étant sur une année où ça allait bien se passer, quoi. Et donc du coup c'est finalement une course que j'ai réalisée l'année dernière au mois de novembre, voilà, dans des très bonnes conditions, alors et physique et familiale, enfin voilà, on a passé un super moment et j'étais assez content et même j'étais tellement content de pouvoir le faire, je m'étais même pas posé la question du profil de la course, en fait. Pour moi, c'était forcément une course plane, etc. Et finalement, ce qui m'a bien aidé, c'était d'avoir fait du trail, parce qu'en fait, il y a quand même 300 de dénivelé sur ce marathon, et notamment 300 sur une partie qui fait 10 km, quoi. Donc voilà, donc c'était assez étrange pour ce profil de marathon, et du coup je fais quand même un 3:35, donc c'était pour moi plutôt un bon temps au vu des conditions, parce que j'ai aussi conscience que c'est beaucoup de sacrifices pour moi, évidemment, parce que voilà, quand on est sportif comme tu le fais aussi, tu fais des sacrifices sur ton alimentation, tu changes des choses, etc., tu as des plans d'entraînement et tout, mais aussi pour la famille, parce que finalement, ils sont toujours spectateurs, mais ça nous permet de voyager aussi, donc c'est toujours très intéressant, et moi, de le faire partager à mes enfants, c'est cool.
Alors, tu disais, c'est un challenge. Ce mot-là est revenu depuis le début de l'épisode de façon assez importante. Tu as besoin de ça pour... avancer, besoin peut-être des camarades qui, à Dijon, t'ont permis de te lancer dans la course à pied. Est-ce que seul, tu y prends autant de plaisir ?
Aujourd'hui, j'y prends beaucoup de plaisir parce que, alors, on va dire que mon environnement aussi communautaire a changé, parce que aujourd'hui, avec la création de contenu, chaque fois que je vais sur un événement sportif, on va dire, je sais pas que je suis connu, mais en tout cas, on me reconnaît à travers ce que je fais, et donc du coup, on vient échanger, etc., ou sur les réseaux, etc. Donc ça, je trouve ça plutôt cool, et même c'est presque normal de pouvoir donner un peu de temps aux gens, et si ça peut inspirer des personnes qui veulent se mettre à la course à pied, ben je trouve ça génial. Et c'est d'ailleurs un peu en ce sens qu'on va sur le schéma de Saint-Élion en relais et en binôme avec des personnes handicapées. Mais surtout, moi, ce dont j'ai besoin, c'est effectivement d'une motivation. Quand j'ai pas de challenge, j'ai du mal à aller m'entraîner, j'ai du mal, voilà, c'est pas que je traîne les pieds, mais je vais aller plutôt à la cool, ce sera plutôt un footing rythmé qu'une vraie séance. Et donc voilà, donc j'ai quand même besoin d'avoir un vrai objectif défini pour pouvoir me concentrer sur cet objectif et puis réaliser le plan d'entraînement qui correspond. C'est un peu peut-être ce qui m'a manqué cette année parce que on se pense toujours bien préparé et peut-être parfois des fois pas suffisamment. Enfin, je l'ai ressenti sur le marathon du Mont-Blanc par exemple. J'aurais dû être mieux préparé pour moins le subir.
Comment tu articules tes saisons ? Tu as toujours quelqu'un qui t'accompagne, ce coach qui était au démarrage à tes côtés à Dijon, ou est-ce que toi-même, tu composes en fonction de tes envies ? Tu le disais, hein, Athènes, c'était limite le Graal. Tu voulais parcourir, accomplir ce marathon dans sa forme primaire, c'est-à-dire là où est né le marathon. Comment tu chemines à travers ces différentes saisons ? De quoi sera fait peut-être ton année 2023. Bon, 2022 n'est pas terminé. Il y a la Saint-Élion qui est ce gros objectif. Mais comment tu fais pour choisir tes courses, celles qui te font vibrer, celles qui te donnent envie peut-être de voyager et d'associer finalement la famille à un environnement plutôt agréable avec le côté dépaysement que l'on peut trouver dans certaines compétitions.
Après, ce qui est intéressant, je trouve en tout cas, c'est d'aller sur des choses soit méconnues, soit réellement j'aimerais bien faire l'UTMB, mais je trouve aussi que l'UTMB c'est un peu surfait. Enfin, je trouve qu'on en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maintenant, c'est une très belle course. Enfin, pour avoir fait le marathon du Mont-Blanc, c'est juste magnifique. Enfin, quand on est dans la course, etc., c'est vraiment topissime. Après, j'aime bien aussi trouver des courses qui sont un peu moins bankable entre guillemets, mais qui sont tout aussi difficiles ou sur lesquelles on va trouver autre chose que ce côté bling-bling. Maintenant, l'articulation en fait, elle se fait en fonction des possibilités. Par exemple, c'est la troisième fois que je tente de m'inscrire au marathon de Londres, parce que j'aimerais bien le faire. Bon, ça fait 3 fois que je me fais jeter. Je retenterai sans doute, mais voilà, c'est ça peut faire basculer effectivement une saison sur un objectif ou pas. Et parfois, ben, c'est ça qui est difficile, c'est-à-dire que ce marathon-là, par exemple, il est en début d'année, enfin, dans le premier trimestre de l'année. Mais si on l'a pas, derrière, ça veut dire que soit on retrouve un objectif un petit peu dans l'esprit, mais ça veut dire aussi que si on l'a pas anticipé, sur certaines courses, on peut pas y revenir après. Donc, alors, à mon niveau, je peux parfois arriver à trouver des solutions avec certains partenaires, mais c'est en tout cas pas idéal, parce que c'est jamais calé bien en avance. Donc, voilà, on trouve des dossards, mais c'est des fois à 1 mois ou à 1 mois et demi de l'événement, et donc du coup, en termes de préparation, c'est pas suffisant. Donc du coup, il faut vraiment, pour moi, c'est vraiment difficile si on veut trouver des vraies belles courses qui sont un petit peu des événements phares pour me motiver pour aller m'entraîner. J'ai un objectif en tête qui est le marathon 2024 à Paris. Parce que voilà, je veux prendre part aux Jeux Olympiques et que je trouve que ce serait magnifique. Donc voilà, ça c'est dans un coin de ma tête, mais pour 2023, aujourd'hui, j'ai une vague idée de ce que j'aimerais faire. Alors je parlais du TMB et son côté bankable, mais j'aimerais bien faire la MCC, qui est une des courses partenaires en fait de l'UTMB, et qui est en fait une course un peu privilégiée. Voilà, ça c'était en discussion avec un partenaire, donc voilà, c'est pas impossible que ce soit ça l'objectif 2023, mais sans ça, c'est vrai que je suis à 15 jours de terminer la saison quasiment. Alors pour certains, la Saint-Élion c'est le début de leur saison, ou ce sera plutôt la fin, mais après j'avoue que j'ai pas
Après, tout
trop.
dépend si tu raisonnes en année civile ou si tu raisonnes en saison sportive de début septembre jusqu'à la fin du mois d'août. Ça dépend vraiment de ton calendrier, je dirais.
Ouais, mais là je discutais avec un copain, avec Baptiste Chassagne, là lors du trail de Saint-Étienne, et finalement il me dit, ben voilà, moi j'attaque en fait, j'attaque par la Saint-Élion, c'est mon début de saison en fait pour moi. Je lui dis, bah tu vois, bah voilà, contrario, moi c'est plutôt ma fin de saison, mais lui il fait les Golden Trail Series, donc forcément c'est voilà, le calendrier est un petit peu chamboulé aussi, hein, par rapport à notre vision à nous. Donc du coup, j'avoue que là pour 2023, j'ai pas encore de vraie vision de ce que je vais faire et de la motivation qui sera la mienne. J'avoue que j'arrive à un moment aussi où je suis tellement partout que bon voilà, j'ai du mal à prendre un petit peu le recul qu'il faut pour me projeter.
Est-ce que ces moments de course à pied, tu le disais, hein, je suis à droite, je suis à gauche professionnellement, ces activités qui, elles aussi, te demandent un gros investissement, est-ce que ces temps avec les chaussures aux pieds sont des bulles, des respirations pour te permettre, peut-être derrière, de réfléchir et d'organiser l'ensemble de ta journée, l'ensemble de ta semaine?
Alors c'est surtout, ouais, alors surtout la sortie du dimanche matin, notamment quand je pars en forêt, effectivement, ouais, ça fait une petite coupure. Souvent, en plus, je me perds parce que je suis pas tout à fait le plan qui est prévu. Donc souvent, d'ailleurs, j'ai un appel de mon épouse qui me dit, tu t'es perdu? Ah bah oui, en fait, mais j'arrive, je suis pas très loin. C'était pas ce qui était prévu, quoi. Mais donc oui, c'est vraiment, alors une bulle d'air en fait, au sens propre comme au figuré, hein, et du coup ouais, ça me permet un peu de penser à toujours à beaucoup de choses, et donc du coup je sais pas si en fait quand je rentre de ces footings ou de ces sorties, c'est pas pire en fait. Tellement il y a d'idées qui fusent, et je me dis finalement j'ai pas fait ça, j'aurais dû peut-être faire comme ça, etc. Et là, professionnellement, on devrait faire ça, et pour la télé, ça serait peut-être pas mal. Là, pour la chaîne YouTube, il faudrait peut-être revoir les trucs comme ça. Enfin voilà. Donc, ouais, forcément, voilà, ça fuse beaucoup, peut-être beaucoup trop. Ma femme me dit que j'en fais beaucoup. Elle a peut-être raison finalement.
Et tu serais capable de te priver de course à pied pour assouvir une de ces autres passions, que ce soit la télé, la création de contenu, telle que tu l'évoquais tout à l'heure?
Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que j'arrêterai la chaîne YouTube peut-être avant la course à pied. En fait, la chaîne YouTube est née grâce à la course à pied. Mais en général, en plus, elle est toute jeune, elle a moins de 2 ans. Il y a une forte progression sur cette chaîne qui est une chaîne de niche avec des moyens qui sont tout à fait pardon, qui sont tout à fait simples. Hein, voilà, il y a pas de gros investissements derrière, et c'est beaucoup aussi une chaîne qui remercie les marques, hein, aussi, parce que globalement, tout ce que je présente, c'est tout ce qui m'a été transmis, offert, permis de tester. Donc ça, c'est juste un retour des choses. En fait, cette chaîne YouTube est née. On était à un tournant sur mon compte Instagram. On était à 3 000 4 000 abonnés, je sais plus. Et à un moment, bah, c'était qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait de ces abonnés finalement? Et les marques qui, voilà, bah, qui étaient demandeuses de présentation, et qui trouvaient que sur Instagram, la présentation, les réels étaient trop court en fait pour vraiment présenter. Voilà, moi j'avais en tête un peu de créer quelque chose sur YouTube, pourquoi pas, mais j'étais pas un adepte de YouTube, et pas un hyper consommateur au départ. Donc du coup c'était pas tout à fait mon monde, quoi. Moi j'avais le monde Insta, que je maîtrisais plutôt. J'avais pas voulu me mettre sur Facebook parce que je trouvais que c'était trop compliqué et que j'arrivais un peu tard. Donc du coup voilà, donc j'ai essayé la plateforme YouTube, et voilà, en 1 an et demi, c'est une chaîne qui progresse bien, ouais, parce qu'on est quasiment à 200 000 vues cumulées, et on a quasiment 1 000 abonnés. Alors, pas tout à fait, mais voilà, en moins de 2 ans, c'est quand même pas mal quand on n'est pas un YouTuber comique ou autre, ou hyper connu, quoi. Donc voilà, donc moi je remercie aussi cette communauté qui me suit. Et la seule chose, si on peut revenir dessus, c'est que effectivement, vu qu'elle est née grâce à la course à pied, je vois pas faire autre chose sur ma chaîne YouTube que quelque chose qui serait lié à la course à pied finalement.
Et est-ce que Damien, sans cette médiatisation, sans Instagram, sans YouTube, tu serais le coureur que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de s'il n'y avait pas eu cette médiatisation, cette visibilité? Et tu pourras revenir tout à l'heure, hein, sur les marques qui viennent à toi et comment justement ça se passe dans le testing. Est-ce que tu as cette liberté de ton que l'on peut avoir dans un test sans aucune attache? Mais aurais-tu été différent sans cette mise en lumière et sans cet appel du pied des marques?
Ah oui, sans doute, parce que sur le fond, quand on fait de la course à pied, on commence à acheter une paire de baskets. Alors, la paire de baskets, soit on se fait conseiller, soit on la prend parce qu'elle est super belle, super flashy, et voilà. Moi, j'adore les sneakers, donc
Pour le ravito ou les chaussures à porter?
pour les chaussures à porter. Et du coup, tout de suite, on regarde un peu le pendant dans le sport qu'on veut faire. Tu ferais du foot, tu regarderais la pompe de Messi. Bah là, tu regardes la pompe de Kipchoge, ou voilà. Donc tu te dis putain, ouais, c'est quand même pas mal. Pardon. Et du coup, ah, bah, allez, on va peut-être essayer ça. Peut-être que ça, puis peut-être ça va te faire progresser. Donc du coup, t'es un consommateur dans l'âme. Donc derrière, t'es un consommateur. c'était aussi un, on va dire, dans les années 90, voilà, avec tes Stan Smith, etc. Donc du coup, ouais, j'aurais sans doute été différent. Enfin, je serais resté moi-même à mon niveau, mais mon niveau, c'est celui que j'ai aujourd'hui, en fait.
Alors, tu le disais, hein, coureur normal. Moi, toi, je me définis comme un coureur lambda, celui que l'on trouve dans 90% des pelotons. Voilà, dans le milieu parfois, un peu plus devant, un peu plus derrière. Sur ta façon donc d'aborder la course à pied, est-ce que tu as toujours en tête cette création de contenu ou est-ce que tu arrives à t'en détacher au point de dire, bon, là, je fais un run, c'est tranquille, j'ai rien à montrer, j'ai rien à proposer. La photo que je vais faire, elle est pour moi, elle est sans autre ambition que celle de partager mon sport. Ou est-ce que tu as toujours à l'esprit ce côté marque, ce côté produit à proposer parce que tu as peut-être des attentes et des consignes transmises par les marques pour proposer un produit et que tu sois le relais
Non, il y a vraiment des moments où je sors sans caméra, alors je sors jamais sur mon téléphone, parce que ça aussi pour régler, donc comme je cherchais pas, c'est, ça m'arrange bien de la voir, mais globalement, je peux, ouais, passer des moments, d'ailleurs, il y a des moments où je fais des photos, elles sont tellement nasses que faudra mieux pas que je les publie, en fait, donc sur le fond, je peux très bien ne rien faire, d'ailleurs, sur mon compte Insta, il y a eu des périodes où je m'astreignais à publier deux, trois, des fois même quatre publications par semaine. Là, j'arrive à en faire une toutes les deux semaines. En plus, l'algorithme change sans arrêt. Donc voilà, je cherche plus à savoir ce qui plaît à l'algorithme. Mais c'est facile de dire ça quand t'as 6000 abonnés et que si t'es à la recherche de ça, quoi, je veux dire. Donc, voilà, je me détache un petit peu de ça. Après, pour la création de contenu YouTube, oui, soit j'ai prévu de filmer en caméra embarquée, soit la course, soit l'événement, soit, et donc là, bah, je le prends, mais je l'ai choisi au départ, donc du coup, c'est sûr qu'en termes de temps de course, bah, on s'en fout un peu, quoi. Je pars pas pour faire une perf, du coup, parce que je m'arrête toutes les 5 minutes, je prends un peu l'environnement, j'ai besoin d'illus, etc. Donc ça, c'est, je me détache de ça aussi, je me détache du temps quand je fais de la vidéo et je suis plus dans me challenger moi-même et essayer de performer quand je pose ma caméra, quoi. Ouais, carrément.
Parce que c'est vrai que c'est pas très compatible de dire je prends part à un marathon et je vais m'arrêter pour prendre une photo, pour mettre en valeur cet équipement-là qui m'a été proposé par cette marque-là. Là, le compétiteur, il prend une claque.
C'est ça.
Il faut choisir et tu définis cette course-là est une course sponsorisée, ouais, entre guillemets, donc je vais avoir du contenu et celle-ci, elle est pour moi et il y aura peut-être moins de prise de vue pendant la course, ce sera avant, ce sera après, et là j'ai rendez-vous avec moi-même et c'est là que je vais aller
ça.
Batailler.
Non, mais t'as complètement raison quand tu parles de ça, c'est vraiment ça. Alors après, vu que j'essaye de maximiser les choses, je suis quand même j'essaye quand même de toujours faire les deux à la fois, quoi. Donc c'est pas bien, parce que...
Et ça te frustre pas de ne pas pouvoir sur une course prendre le départ et donner le meilleur de toi-même?
Non, mais après sur une course qui est vraiment définie, qui est vraiment, tu vois, par exemple le marathon du Mont Blanc, je ne pouvais pas ne pas filmer et pourtant j'étais en dépassement de moi, si tu veux. Donc mais c'était, j'y reviendrai sans doute jamais, parce que le tirage au sort est tellement compliqué pour avoir le dossard, quand t'es dans la forme et avec le sésame, tu te dis putain, ouais, enfin c'est quand même magnifique. Et puis en plus on a eu des conditions qui étaient vraiment au top. Et puis moi j'étais vraiment dans le dur, donc en plus voilà, il y a ce côté un peu émouvant qu'on retrouve un peu dans cette course-là, qu'on retrouverait pas dans d'autres. Mais c'est vrai que j'aurais pu le faire sans filmer, en fait, sur le fond. Tu as raison, et tu peux te challenger aussi sans ça. Mais dans nos passions respectives, si tu veux un peu montrer ce que tu fais, etc., si tu veux avoir un peu de contenu, bah, t'es obligé un peu de maximiser, parce que sinon t'es réalisateur et tu cours pas. C'est vrai, c'est pas simple.
Toi, derrière cette création de contenu, il y a le pourquoi. Pourquoi vouloir en montrer autant? Est-ce que tu en tires peut-être des revenus, des rétributions par rapport aux marques qui viennent te chercher?
Pour ce qui est la création de contenu YouTube pur, alors c'est, effectivement, ça dépend des marques. Alors, toutes les marques ne sont pas venues me chercher. Et ça s'est fait étrangement, en fait, quand on y repense. Il y a eu quelques marques qui sont venues, puis quelques échanges aussi avec des structures. Puis après, les structures ont changé un peu leur fusil d'épaule. Donc, du coup, on s'est séparés, on est reparti avec d'autres, etc. Et des marques aussi qui nous prennent aussi pour leur community manager, hein. Donc voilà, on ne paye pas, mais par contre, on peut faire le taf. Donc voilà, moi j'ai la chance aussi, comme tu disais au départ, d'être plutôt libre, libre parce que j'en vis pas déjà, et que je vis d'autres choses, et qu'il faut pas non plus oublier, voilà, quelle est la partie professionnelle et la partie passion, quoi. Voilà. J'ai la chance d'avoir effectivement différentes marques. Alors, en listant un petit peu, il y a Sidas, il y a Red Light, il y a Nathan jusqu'à peu de temps qui me suivait, qui là pour le coup me donnait des belles notations, alors des notations en montant à utiliser chez eux, qui sont voilà, on peut les donc tester les produits. Et puis moi ce que j'aime bien notamment chez Red Light, c'est que on a des produits aussi qui sont pas des produits encore disponibles sur le marché, qu'on teste, qu'on fait sur lesquels on fait des remontées, etc. Donc moi c'est ce côté-là en fait que je recherchais avec une marque, et puis d'avoir aussi un ancrage un peu local, ce qui manque beaucoup. Alors tous mes partenaires sont pas des partenaires locaux, notamment Nathan, c'est des Américains.
Mais tu as cette attention là, c'est-à-dire que tu vas privilégier des partenaires qui sont dans ton environnement.
Tu vois, par exemple, Sidas, ils sont en Rhône-Alpes. Donc, voilà, en termes de localité, c'est beaucoup plus proche. On parle un peu. Il y a BV aussi. Alors, BV, c'est un petit peu à part, mais BV, c'est Saint-Etienne. Donc, voilà. Donc, forcément.
Donc, BV Sport, c'est les chaussettes et les manchons de compression que l'on peut justement porter.
Voilà. Ils font du textile. Du textile technique qui est plutôt intéressant aussi. Donc voilà, donc ces marques-là sont très bien. Red Light aussi, ils sont sur le côté de Saint-Pierre-Chartreuse, donc à côté de Grenoble. Donc voilà, donc c'est assez régional, quoi, hein, quelque part. Alors après, il y a des grosses marques aujourd'hui qui viennent me voir, enfin des grosses marques, oui, aussi, quand même. On a Mizuno. Voilà, c'est quand même notable. C'est une belle marque en tout cas, avec une belle renommée, et notamment sur le running. Donc, mais bon, pour le coup, ils ne sont pas du tout, basés dans la région. Hein, donc là, c'est un petit peu différent. Mais voilà, c'est toujours sous forme de dotation. Et donc du coup, ça me laisse aussi ce pouvoir de, ben, voilà, de dire vraiment ce que je pense des choses. Il y a des choses à améliorer. Je dis d'ailleurs dans ma dernière vidéo sur une paire de baskets Mizuno, où je trouve que la semelle sur terrain glissant, c'est un peu difficile. Je pense que ça vient du caoutchouc notamment, mais voilà, c'est aussi en ça qu'on peut aider. On peut aider déjà la communauté qui nous suit à prendre la bonne décision, à pouvoir tester. Enfin, moi je me considère pas en tout cas comme une pancarte, en fait, un homme sandwich, hein, donc au contraire, c'est, si j'ai testé, je trouve ça bien, ben voilà, j'en fasse la promotion. Je trouve que finalement c'est intéressant pour tout le monde. Après, quand c'est...
Et quel est le cahier des charges quand tu es face à un produit qui arrive dans ta boîte à lettres? Quelle est la méthodologie? Ça, on en avait discuté avec Jérôme Maire, qui est donc le créateur donc du site Montre Cardio GPS. Et Jérôme disait qu'il n'avait, lui, jamais sollicité vraiment les marques pour justement les testings. Jamais de cadeau pour ne pas se sentir redevable. Toi, tu dis, bon, j'ai mon indépendance, je suis pas homme sandwich à porter, véhiculer toutes ces tenues, toutes ces chaussures qui arrivent. Mais est-ce que il t'est déjà arrivé, face à des commentaires où tu trouvais le produit pas satisfaisant, d'avoir un petit retour de bâton de la part d'une marque?
Moi, je prends jamais la marque à défaut. Je pense que personne le fait, mais encore moins moi. C'est-à-dire que quand je reçois quelque chose, je le reçois, je le teste, je fais un retour à la marque, je fais ma vidéo. Voilà comment ça se passe. Comme ça me permet de discuter avec la marque et de dire bah voilà, moi je trouve ça c'est plutôt intéressant, ça c'est plutôt bien pensé, ça par contre c'est pas pratique. Du coup, c'est aussi en ce sens que je vais apporter des points d'amélioration. Je dis pas c'est un produit qui est nul. Je dis simplement qu'effectivement, on pourrait avoir des points d'amélioration ici. Je pense à un sac que j'ai testé dernièrement qui est peut-être l'un des meilleurs sacs du marché, sauf qu'en fait, tu peux pas mettre ton téléphone dans la poche. Je trouve que c'est dommage, c'est un peu con. On a créé un super sac et du coup, la poche, elle te permet juste de rentrer une carte bancaire. Ben voilà, tous les téléphones aujourd'hui font quasiment deux cartes bancaires. Ben, tu peux pas rentrer ton téléphone. Ben, pour moi, je trouve que c'est peut-être quelque chose à améliorer. Après, ils le feront pas, mais en tout cas, voilà un peu ma vision des choses là-dessus. Et puis sur cette partie testing. Moi, je suis libre de m'habiller comme je veux. Donc, du coup, si demain je veux porter du Nike, je porte du Nike. Si je veux porter Adidas, je porte Adidas. Si demain je veux mettre un pull Red Light et pas de, voilà, voilà. Aujourd'hui, j'ai pas un contrat d'exclusivité avec une marque.
Et c'est tu es pas tenu par une réglementation ou ouais. des clauses qui font que tu serais bloqué pour un autre testing ou un autre type de produit.
Et c'est d'ailleurs tous les échanges qu'on a avec les marques quand ils viennent nous approcher, parce que en tout cas pour ma part, plusieurs fois on a essayé de me faire signer des clauses d'exclusivité. Pour moi c'était pas possible parce que c'était aller à l'encontre de ce que j'essayais de faire, ou en tout cas de ce que j'essayais de présenter. Quand je reçois des bâtons de toute marque, je vois pas pourquoi je ferais uniquement la promotion d'une seule marque. Quand t'es pas rémunéré, quoi. Je veux dire, je suis pas salarié de la marque. Donc c'est là où parfois il y a des dérives avec les marques. C'est que la marque pense que parce qu'elle t'envoie une dotation, tu deviens son salarié en fait. Et c'est là où on a cette dérive parce que du coup, évidemment, elle a payé même une paire de baskets qui est vendue dans le commerce 300 euros, elle te l'a donnée. Bon, ben, t'as une belle paire de baskets entre les mains, mais si c'est pour derrière, elles te disent, mais par contre, faut dire ça, ben, non, en fait, moi, je préfère rendre la paire de baskets, et puis voilà, ils trouveront quelqu'un d'autre. Il y en aura peut-être 1000 des personnes qui accepteront la paire de baskets et de faire comme ils veulent.
Mais tu le dis, en fait, c'est un média, tu dis, je suis dans une thématique de niche, c'est le running, ça ne parle pas forcément à l'ensemble de la population. Mais ces marques n'auraient peut-être pas la possibilité d'aller solliciter des grands médias pour lancer des campagnes de pub, du moins pour ces marques un petit peu régionales hein, qui sont en oui. développement. Elles n'auraient pas la possibilité de déployer des gros moyens pour des campagnes nationales, donc par des influenceurs. Enfin, j'aime pas trop le mot parce que y a un produit à vendre, mais des testeurs, des personnes qui créent du contenu comme toi. Tu es un bon vecteur parce que on peut s'identifier facilement à toi. Enfin. Moi, sur la coupe de cheveux, sur l'âge, on est à peu près pareil. Donc, je me dis, voilà, s'il l'a testé, c'est un coureur qui me ressemble, je vais pouvoir lui faire confiance. Il a rien à me vendre, puisque tu l'as dit, tu n'es pas salarié donc de ces marques-là. Derrière, c'est gagnant. Enfin, gagnant pour la marque, parce qu'elle va pouvoir, à travers ta communauté, aller capter un potentiel oui. client assez important.
Alors, c'est vrai. Mais après, si le produit est bien, il est bien, je veux dire. Moi, je suis content de tester des produits qui sont bien. Après, je suis aussi content de tester des produits qui sont pas bien pour dire qu'effectivement, il y a des vraies améliorations à apporter. Donc, je trouve que ça fait progresser le sport, ça fait progresser l'équipement. Et aujourd'hui, l'équipement, on parle de la paire de basket, mais la paire de basket, c'est primordial. Moi, j'ai commencé avec des baskets, comme je disais tout à l'heure, qui étaient des baskets plutôt fun, funky, fluo, etc. Et j'étais en train de me fusiller les chevilles, donc je suis allé ensuite dans un magasin spécialisé où on m'a conseillé une paire de baskets qui était dégueulasse, franchement. Mais par contre, en termes de confort, c'était tout à fait ce qu'il me fallait. Ben voilà, on est un petit peu là-dessus. Et donc, si moi, je peux aider, alors peut-être pas à avoir une paire de sabots ou une paire de pompes hyper cool, mais on peut trouver un entre-deux. Aujourd'hui, il y a tellement de chaussures, tellement de tests. Et puis, moi, j'ai testé qu'une infime partie de ce qui existe sur le marché. Donc je parle de ce que je connais. Il y a plein de choses. Je m'y aventure pas. Je préfère pas donner un conseil sur quelque chose que j'ai pas vu, j'ai pas essayé, quoi.
Et ça remonte à quand, Damien, la dernière paire de chaussures et le dernier équipement running dans lequel tu as investi avec tes propres deniers?
Ah, je sais pas. Ah, c'est moche. C'est moche parce qu'en plus, on commence à avoir une déformation par rapport à ça. Du coup, c'est aussi pour ça que je suis très content et j'embrasse mon épouse pour ça, parce qu'elle me garde les pieds sur terre un peu par rapport à ce sujet-là précisément. Mais que j'ai acheté. Oh. Si ça doit être une paire de Nike Air Vaporfly, bon, un an à peu près. Un an. Et c'est une chaussure que j'ai très peu mise. Très très peu mise, parce que je la trouve tellement élitiste que ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur de la mettre, en fait.
Donc tu as un dressing en course à pied plus important que le dressing vêtement de ton épouse, alors?
Ma femme compare mon équipement running à un magasin du type Terre de Running ou Running Conseil. Et encore, franchement, de tout ce que j'ai, je peux pas tout mettre et je trouve que c'est du gaspillage. Donc aujourd'hui, il y a quand même eu deux mouvements qui ont avancé sur ce sujet, enfin qui se sont présentés sur ce sujet, qui sont effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, les marques qui font de plus en plus de prêts pour le testing. Donc ça, sur le fond, moi, je trouve que c'est pas mal, parce que finalement, un sac à dos, deux sacs à dos, trois sacs à dos, huit sacs à dos, après, voilà, comme je te dis, tu deviens une boutique d'équipement. Donc, je trouve que c'est bien de pouvoir le tester et de le rendre à la marque. Et comme ça, il peut en plus agir rapidement sur le produit. Et également, moi, ce que j'aime bien faire, c'est... Bah, déjà, je distribue beaucoup de choses autour de moi, à la famille, aux amis, etc. Je fais aussi beaucoup de concours, pas beaucoup, un peu moins cette année, mais des concours où je donne aussi beaucoup de choses. Donc voilà, donc ça me permet aussi d'en faire profiter les gens, quoi. Parce que c'est que je teste les choses, c'est bien, mais finalement, après...
Sur des chaussures, c'est plus difficile. Quand tu les as portées, de la seconde main dans les chaussures, je trouve que c'est un peu... On a son pied, on a... Voilà, il y a un côté intime à la chaussure, cette relation que l'on peut avoir, mais ça me paraît plus difficile que des chaussures portées puissent trouver, non pas une seconde main, mais un second pied.
On ne fait pas tout le temps ça, 500 km avec les chaussures, hein. Enfin... J'aimerais tester toutes les chaussures sur 500 000 bornes. Déjà, il y en a qui résisteraient pas. Et puis, il y en a, c'est pas possible. Il y en a, c'est pas mon pied. Il y en a, ça correspond pas. Donc, je vais plutôt les laisser dans un placard s'il y a une personne qui est... voilà. Après, libre à elle de pouvoir peut-être changer la semelle intérieure. Parce que, voilà. Là, je comprends, j'entends ce que tu me dis sur l'amorti, etc. Mais parfois, elles ont 300 bornes. Hein. 300 bornes, tu peux encore faire un peu en fonction du type de chaussures. Si t'as pas de Vaporfly, tu peux encore faire un peu de kilomètres, quoi.
Et sur les dossards, c'est exactement le même principe? Tu arrives par ces prestataires où c'est plus difficile d'avoir des accès ou des accréditations?
Sur les dossards, alors en régie, là, c'est plus par TL7. Aujourd'hui, par TL7, effectivement, les organisations autour, parce que souvent, on prévoit la course. Alors, pas moi directement, mais donc du coup, quand on nous offre souvent des dossards. Donc, vu que moi je suis un des coureurs de l'équipe, voilà, on m'offre le dossard. Donc ça, c'est sympa. C'est très sympa. Après, sur d'autres courses, il y a des dossards que je paye, hein, il y a encore des dossards que je paye, et tant mieux. C'est bien, ça me permet de garder les pieds sur terre et me rendre compte que le prix du dossard est toujours aussi cher, hein, par rapport au kilomètre. Mais il y a des, par exemple, sur le semi-marathon d'Annecy, là, j'ai été invité par la, par l'organisation. L'idée, c'était aussi de promouvoir leur événement. Donc, du coup, avant l'événement, j'ai fait pas mal de promos pour cet événement-là. Moi, c'était un événement que je voulais faire. Ils m'ont offert le dossard. Donc, c'est, voilà, c'était pareil, toujours une relation gagnant-gagnant. Mais moi, je trouve que c'est normal. On donne quelque chose. Ben, voilà, que tu puisses à minima t'investir dans ce qu'on t'a offert. Je trouve ça quand même cohérent, quoi. J'essaye d'avoir cette vision de cohérence quand même avec les différents partenaires. Je trouverais ridicule d'avoir 4 partenaires du même équipementier, par exemple. Du même équipement plutôt. Quand je dis ça, c'est par exemple, je me vois pas avoir, je sais pas, Sida, la chaussette française, et puis l'autre marque, par exemple. C'est voilà, PV c'est un peu différent, ils font des boosters donc après ça va de pair avec la paire de chaussettes, mais c'est pas pour moi, c'est complètement différent la relation PV, la relation SIDAS.
Et par rapport à tes valeurs personnelles, est-ce que tu es déjà rentré en conflit avec toi-même sur des marques, sur des testings, des choses que tu aurais pu refuser, écarter parce que ça ne collait absolument pas du tout avec ta philosophie de vie?
Oui, parce qu'il y a quand même des marques qui viennent nous solliciter pour tout et rien. Alors, moi, j'ai une vision assez primaire, on va dire. Vu que je gagne pas d'argent avec ça, je me dis, si je demande de l'argent et qu'on veut bien me répondre positivement, à ce moment-là, on verra, on commencera à discuter. Mais bon, ça s'arrête assez rapidement, donc du coup, j'ai jamais vraiment ce problème. Dès que t'annonces une grille tarifaire, tu peux être à peu près tranquille que t'es pas bien plus ennuyé, quoi. Donc voilà, je fais ça, mais je le fais sciemment parce que les trucs ça m'intéresse pas. J'ai même essayé, si une fois, peut-être une petite anecdote qui arrive là, j'ai fait ça avec un truc de barbier. Alors bon, ça me correspondait un petit peu parce que j'ai plus de cheveux, hein. Je laisse pousser la barbe, c'est plus simple pour moi. Et donc non, du coup il y a une marque qui se lançait, qui m'avait fourni un rasoir, un kit de rasage en fait un peu à l'ancienne. Donc j'avais trouvé ça plutôt cool. Et puis finalement c'était pas mon délire, quoi. Pour la création de contenu c'était pas top, quoi. C'était vraiment pas top. Du coup j'ai laissé tomber. Je crois même dit à la marque. Je pouvais leur envoyer le colis parce que ça collait pas. Donc voilà, donc c'est la petite anecdote. Et quand je me suis retrouvé face à ma glace en train de faire ça, je me suis dit non, c'est en fait ça correspond à rien, quoi. Ça n'a pas de sens, il n'y a pas de fil conducteur, il n'y a pas de les valeurs, il n'y a pas de sujet, quoi. Donc on va passer à autre chose. Puis on a tant de choses à faire, comme je te dis, on est tellement, alors au-delà d'être sollicité, on a tellement de choses à vouloir faire déjà, que autant faire ce qu'on a envie de faire déjà. Quand on a la possibilité, autant aller sur les trucs qui nous correspondent beaucoup plus.
Et justement sur ces événements, sur lesquels tu te rends, Damien, quel est l'accueil des personnes qui te reconnaissent et qu'est-ce que ça te procure quand les gens viennent en disant « Ah, c'est Damien, je t'ai vu à la télé, ah, je te suis sur Instagram. » Quel regard ils ont sur toi et comment toi, tu réagis ?
Alors moi, je trouve ça fou déjà. Je trouve ça incroyable. J'aurais jamais pensé déjà avoir cette petite notoriété.
Parce que même si tu n'y penses pas, la création de contenu, elle va quand même dans ce sens-là. D'être à un moment donné reconnu, estimé peut-être, enfin je sais pas si on est sur un rapport à l'estime, allonge-toi une heure qu'on en discute.
Ouais. non, j'avoue que c'est, je trouve ça sympa et presque rigolo en fait de se dire, en fait surtout ça m'est arrivé au marathon du Mont Blanc, parce que donc j'avais des partenaires à voir. Et dans les allées, je vois d'autres copains, du coup on s'arrête, on discute, etc. Et donc du coup j'étais avec Boris, on discutait sur le stand de Iron, je crois. Boris Pied de Robot, hein,
que l'on salue avec tous ses projets et tout ce qu'il entreprend. Ouais.
Et du coup, on discute et puis d'autres personnes s'arrêtent, on commence à discuter et puis Les gens s'arrêtent et ils me regardent, ils me disent, ah, mais d'accord, ah, bah oui, etc. Donc, voilà. Donc, commencer à discuter, voilà. Donc, moi, j'aime bien partager avec les gens, finalement. Pour moi, c'est comme si, dans ma vie professionnelle, je rencontrais un commerçant ou un artisan ou autre. Donc, on discute, voilà, de course à pied, de passion. Donc, c'est top. Et à un moment, on est arrêté, donc on repart avec mon épouse dans le salon du trail de Chamonix. Et là, on est arrêté, je suis arrêté par des personnes. Et là, ma femme me dit, ah, mais c'est pas possible en fait. Enfin, elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi? Elle comprenait pas, quoi. Parce que, encore une fois, elle est vraiment en dehors de ça. Elle ne s'en occupe pas, c'est pas du tout son truc, c'est pas elle qui fait les photos, voilà. Faut rendre à César ce qui est à César. Donc, c'est ce qui aussi me permet d'avoir des garde-fous. Mais quelque part, ça la choque parce qu'elle s'attend pas à ça quand on sort, en public sur des événements comme ça. Et quand on est rentré chez les partenaires nous disent, alors moi, j'étais un peu gêné parce que ça arrive pas non plus tout le temps comme ça, hein, mais le partenaire nous dit, mais qu'est-ce que vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Prenez ce que vous voulez sur le stand. Enfin, comment ça, est-ce que vous voulez?
Là, c'est un enfant dans un magasin de bonbons. Servez-vous.
C'est exactement ça. Et bah, moi, je suis déjà très gêné, parce que je prends ce que j'ai besoin, enfin, j'achète, mais je ne fais pas de la surconsommation. Quoi. Donc, et ma femme me dit, mais comment ça, prends ce que tu veux? Elle me dit, oui, vas-y, allez-y. Et ça, vous l'avez, ça, vous l'avez, ça, vous devez prendre, ça, vous testez. Enfin, voilà. Et là, elle s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui commençait à se créer, quoi. Et donc, du coup, c'est assez étonnant, en fait, ce rapport qui a changé depuis, je dirais, depuis le confinement, en fait. Et après, bah, quand je suis en local, du coup, Saint-Étienne, effectivement, avec la télé, c'est encore différent. C'est-à-dire que là, on est sur des événements où les gens me reconnaissent, ou quand je suis dans la rue... Mais il y a toujours cette forme de, aujourd'hui en tout cas, j'espère que ça le restera, déjà d'humilité des gens, de discrétion aussi, et surtout de sympathie, quoi. Je veux dire, c'est toujours des messages agréables, des messages sympas, et on t'a vu, et ah, tu nous as bien fait rire sur cette émission, ou là, cette démo, c'était sympa, et là, comment t'as fait, t'as dû batailler, etc. Donc, non, c'est, pour moi, je remercie les gens qui m'ont reconnu, parce que c'est quand même, enfin, moi, je m'arrête pas trop sur les gens, quoi, donc je trouve ça vraiment sympa, et puis, c'est pas que ça me dépasse, mais je trouve ça incroyable, en fait. Je trouve ça incroyable parce que autant ça peut être, je veux dire, compréhensible quand t'as 20 ans, que tu suis des gens, etc., que t'es un youtubeur connu, et encore, on parle de youtubeur. C'est ça qui est aussi dingue, qui a changé dans notre société, finalement. C'est qu'on n'est plus sur des stars, des footballeurs, etc. Et donc, moi, ça m'arrive dans un microcosme comme ça, je trouve ça juste incroyable, quoi. Enfin, c'est incroyable.
À aucun moment, au regard de cette bascule, tu disais au niveau du confinement, il s'est opéré quelque chose, tu as senti une modification, de basculer totalement dans cette communication pour une marque, pour une gamme de produits, et d'abandonner ce que tu fais au quotidien pour te lancer tout simplement dans la création de contenu, mais là, professionnellement. Est-ce que ça t'a déjà effleuré l'esprit?
Oui, indirectement avec la chaîne YouTube, parce qu'on se dit toujours, quand t'as 1000 abonnés, 4000 heures de vue, tu commences à avoir des royalties, etc. Mais c'est des queues de cerises, hein. Donc, faut en être conscient, hein. Je veux dire, tous ceux qui nous écoutent et qui pensent qu'avec leur chaîne YouTube, avec 1000 abonnés et 4000 heures de vue, ils vont devenir riches et vont plaquer leur taf, j'en souhaite bon courage, hein. J'en souhaite qu'ils réussissent surtout, mais c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Et puis, ce qu'on voit pas, c'est tout le temps passé à faire les vidéos, à tourner, à monter, et c'est aussi vraiment beaucoup de boulot, quoi. Donc quand on, alors moi, je fais des plans assez simples, avec un logiciel simpliste, etc. Donc, je pense que si je professionnalisais peut-être les choses, ça donnera déjà envie aux gens de rester beaucoup plus, peut-être de, voilà, de s'abonner plus facilement, etc. Mais aujourd'hui, je suis tellement enfin, dans ce que je fais, je suis bien, quoi. Je fais ça sans prise de tête. C'est une chaîne passion. Donc, voilà, on essaie de faire transpirer cette passion-là, donner des conseils quand on peut en donner, ou en tout cas des retours d'expérience plus que des conseils, puisque je ne vois pas encore donner des conseils, mais plutôt un retour d'expérience sur ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu, ce que j'ai essayé, ce qui a marché pour moi, ce qui a moins bien marché. Voilà, les produits qu'on essaye, ben, je les teste, etc. On voit ce que ça donne. Donc tout ça, ben, je trouve que c'est l'authenticité derrière. Alors après, c'est sûr que si on veut progresser, si on veut en vivre, il faut des contenus beaucoup plus pro, comme tu le fais avec tes podcasts, par exemple. Voilà, c'est un autre chemin.
Alors pour moi, toi, ça reste un côté passion, hein. Je n'ai jamais, et on l'avait évoqué ensemble hein, quand tu m'avais invité sur donc ta chaîne YouTube, j'ai jamais jusqu'à présent dégagé quelconque revenu de ce podcast. C'est une volonté également d'avoir cette indépendance, mais tu l'as aussi, hein, tu le disais par rapport à tes testings. Si demain une marque venait me solliciter, j'ai beau toi porter des Mizuno, j'ai pas franchi ce pas d'aller démarcher donc des marques. Des produits qui viennent à être testés, j'en ai eu par rapport à mes invités, par rapport à des problématiques qui m'intéressent sur l'alimentation, sur des produits de récupération, sur des choses comme ça. Mais j'ai également cette activité à côté, donc on garde quand même les pieds sur terre et ça reste une passion. Mais comme tu le dis, c'est quand même quelque chose qui demande du temps. C'est chronophage, mais parce qu'on le veut bien. Les gens pourraient nous dire, bah, le podcast, si ça te prend trop de temps, tu l'arrêtes. La chaîne YouTube, Damien, si elle est trop impactante pour ta vie pro et ta vie perso, bah, tu l'arrêtes aussi. Après, comme tu le dis, il y a quand même des gens qui nous suivent et ça fait plaisir. Et je l'ai vécu à plusieurs reprises dans l'été, d'aller à la rencontre de ces auditeurs ou des personnes qui sont tes spectateurs. Ça renforce le pourquoi on le fait, c'est-à-dire transmettre de l'information et de ne rien cacher. Et c'est pour ça que je t'ai invité aussi, parce que tu ne sembles pas être quelqu'un qui joue un rôle. Qui est un personnage, tu le fais en toute transparence. C'est ce mot-là que j'avais noté. La transparence à travers la création de contenu. Tu es certes un sportif, mais tu as envie de transmettre également ta passion. Et je partage également cette chose-là à travers le podcast avec quelque chose qui est récurrent, mais qui n'est pas non plus professionnel. Donc, on fait de notre mieux en tout cas.
Oui, on essaie de faire quelque chose de propre pour les personnes qui nous suivent, pour les personnes qui tomberont sur nos vidéos. Après, je pense pas vouloir laisser une trace sur le fond, parce qu'aujourd'hui, les produits présentés sont des produits à un instant T. La basket que tu présentes aujourd'hui, si tu sors la vidéo dans un an, elle a plus de sens. Et quand tu vas regarder la vidéo de cette basket là dans 5 ans, tu la retrouveras même pas, parce que voilà, cette basket elle n'existera plus. Et donc du coup on est dans ce monde là donc on est quand même dans un monde où si on veut faire que du testing, on est obligé de rester dans l'instant T, en fait. On peut pas, c'est même d'ailleurs presque trop, parce que quand une basket sort, tu la demandes à la marque, que la marque te l'envoie, qu'elle a ta notation par rapport à d'autres, il s'est peut-être passé 3-4 semaines et déjà tout le monde a sorti son sujet. Toi tu arrives après, ton sujet il sera peut-être mieux, peut-être moins bien, peut-être équivalent, en fait il passera inaperçu. Donc du coup c'est presque ça qui est difficile, c'est de trouver un angle qui est différenciant par rapport aux petits copains qui font ça, quoi, finalement aussi. Et moi je souhaite, comme tu le disais et comme toi, garder ce côté authentique, parce que c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui je fais cette chaîne là et c'est aussi ce qui nous caractérise. Donc pour moi je vois pas pourquoi je changerais. Puis encore une fois, on a aussi pas 20 ans, quoi, donc voilà, des négos pro, on en connaît un petit peu, on a vu, que ce soit des marques ou autres, on sait un peu tourner les choses, on sait ce qui va nous plaire, ce qui va pas nous plaire, donc Donc autant, enfin moi j'essaie d'aller sur des choses qui me plaisent, quoi. Voilà. Et les marques qui avec qui ça fera plus, bah à l'instant T on peut se séparer aussi, revenir plus tard. Voilà, les choses peuvent évoluer. Il y a des marques, j'aurais jamais pensé qu'elles viennent me voir, aujourd'hui elles viennent, alors que la porte était fermée il y a un an, quoi, un an et demi. Donc bon, faut, voilà, les choses bougent, le monde bouge. Voilà, faut rester connecté, peut-être pas trop pour pas subir toujours ce monde-là, quoi. Arriver à se déconnecter et prendre ce recul.
Alors, est-ce que sur cette Saint-Élion, tu arriveras à courir en étant déconnecté? Si on revient un petit peu sur le sport.
Ça, pour le coup, c'est impossible. C'est impossible pour deux raisons. La première, c'est que on fait cette Saint-Élion à travers TL7. Pour ce projet, pour mettre en avant le handicap, et pour mettre en avant le handicap, on a besoin d'images pour pouvoir faire l'émission. Du coup, nos relais sont forcément filmés, alors soit par nous, soit par un autre caméraman qui nous suivra à ce moment-là. Mais ça, pour le moment, on n'a pas d'infos là-dessus. Donc du coup, ça c'est effectivement la première raison. La deuxième, c'est que sur le fond, il faut qu'on immortalise ce moment, parce que c'est un moment qui sera historique. Et on est tous challengers, mais nos binômes respectifs ont des niveaux tellement disparates et hétérogènes.
Donc, qui sont ces personnes, d'ailleurs? Est-ce que tu peux les présenter, ces quatre binômes?
Alors, les quatre binômes. Donc, le premier relais sera composé de Ludovic Gidrol et Patrick qui est malvoyant, voire non-voyant, hein. Et Ludovic qui est lui créateur d'événements, en tout cas, donc qui est chroniqueur sur la chaîne et créateur d'événements running sur la région, sur Saint-Élion en fait. Voilà. Le deuxième, donc Patrick, grosse difficulté, donc pour rappel, non-voyant, donc dans le noir, les branches, etc., les trottoirs, le mobilier urbain, voilà, c'est juste une catastrophe, hein, pour Patrick. Donc, il faut vraiment se préparer avec lui pour avoir le même tempo, bien lui commenter tout ce que tu vois. Ça, c'est vraiment la première chose. Patrick, je l'ai rencontré parce qu'on a fait une émission ensemble qui s'appelle Courir à l'aveugle, qui est d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, entre autres, et qui est sur la chaîne TL7. À travers un collectif Binôme to Run, justement, parce que Patrick est l'un des seuls non-voyants qui a la capacité de courir. En fait. Voilà. Qui a un bon niveau, hein, franchement, qui a un très bon niveau, mais qui a besoin de courir avec. Il peut courir avec tout le monde à partir du moment où il prend l'habitude de courir avec la personne.
Donc, ça a nécessité combien de préparation pour ce binôme et pour les quatre binômes dont tu fais partie pour cette Saint-Élion?
Alors là, en fait, on s'entraîne à peu près deux fois par semaine avec nos binômes. Ouais. Quand le temps le permet, quand la possibilité pro le permet, on fait ça. Donc pour Patrick, c'était très dur parce qu'il a perdu son job le jour où il a perdu la vue. Donc il n'est pas né malvoyant, il est devenu malvoyant et donc il a tout perdu. Quoi. Il a perdu. Ses capacités fonctionnelles, son autonomie et son job. Donc, voilà, c'était assez dur et donc il a besoin d'être entouré forcément pour courir. Voilà, donc on court à deux avec un lien pour pouvoir le ramener vers soi ou le décaler et surtout beaucoup lui parler. Et donc on avait mis en avant son portrait. Le deuxième binôme, c'est celui de Julien qui est le présentateur de Sport 7 sur TL7 et qui court lui avec un handicapé mental qui s'appelle Régis dit Pingouin et qui a voilà lui qui a jamais couru plus de 15 km je crois. Et qui au départ devait courir avec moi sur le 24. Et donc du coup c'est là où on a revu un petit peu nos binômes parce que pour lui il était tellement enthousiaste par le projet qu'il en avait oublié qu'il n'était pas, il n'était pas enclin à pouvoir courir. Donc, enfin, courir autant en tout cas. Et surtout, on a une vraie question de gestion de course avec, ben, donc avec Régis. Donc ensuite, le troisième binôme, c'est, enfin, le troisième relais, c'est Amar, qui est mon binôme à moi. Amar qui, lui, amputé du bras depuis, depuis 6 ans. Depuis l'âge de 6 ans, qui a toujours vécu comme ça et qui vit mal le regard des autres en fait. Et du coup, à un point où pareil, il n'arrive pas à retrouver un emploi tant il bataille voilà, avec le regard des autres. Donc, du coup, c'est aussi Amar qui est quelqu'un de très timide, qui veut pas passer à la télé, qui veut pas faire l'image, etc. Donc voilà, mec,
voilà, c'est raté. Il va être mis en lumière à travers cette émission et ce projet.
C'est ça. Mais c'est toute la complexité en fait d'un personnage très très effacé, très très bon hein, en course à pied. Je pense qu'il y a le meilleur niveau des quatre. Ouais. Je sais pas s'il a pas même un meilleur niveau que moi sur le cours tellement là et qui s'est préparé comme un fou. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur, mais qui est vraiment qui a peur des caméras. Voilà, vraiment. Et le quatrième binôme, qui est celui de Lilian qui est aussi chroniqueur sur Sport 7, qui est aussi le caméraman de nos chroniques. Hein, on travaille toujours en binôme et qui lui court avec Régis, qui est pareil une personne qui, alors lui qui a une déficience, mais une déficience liée à un problème, alors j'ai plus le nom de la pathologie, mais globalement il peut pas absorber la protéine animale, donc du coup il peut pas manger de viande, pas de voilà. Donc il faut pareil en termes de gestion de course, il y a plein de choses, il faut faire hyper attention. Et surtout Régis dit crevette, lui arrive à faire des malaises comme ça au cas où. Donc voilà, donc il y a une vraie grosse appréhension sur la gestion de la course de chacun de nos binômes pour toutes ces raisons-là. Et c'est ce qui en fait quelque chose de magnifique et encore une fois d'historique, parce que ça s'est jamais fait sur la Saint-Élie.
Donc il y a une excitation, Damien, à l'idée d'aller relever ce défi avec tes camarades donc de TL7 et ces personnes au profil atypique.
Oui, et puis des années au bout, parce que l'idée c'est effectivement de franchir l'arche tous ensemble, hein, au lendemain matin, quoi, au dimanche matin. Donc ça c'est vraiment vraiment ouais hyper excitant, leur faire vivre aussi quelque chose d'extraordinaire, parce que là on parlait des partenaires, mais là faut remercier la Saint-Élion qui nous a invités, qui nous a mis dans un sas d'VIP, donc avec toutes les personnalités qui vont prendre le départ de la course. Donc ça va permettre aussi à nos binômes de pouvoir rencontrer les gens qui idolâtrent. Je pense notamment il va y avoir des joueurs de foot, justement on parlait de la rivalité Saint-Élion, donc il y a plusieurs joueurs de l'équipe de Lyon et de l'équipe de Saint-Élion qui font un relais ensemble, et un des joueurs, c'est un des joueurs emblématiques de l'équipe qui a pris sa retraite il n'y a pas très longtemps, qui est Loïc Perrin, et qui sera aussi dans notre sas là, et notamment Régis et Christophe sont dingues de foot, quoi, dingues de la SS, donc voilà, ça va être quelque chose aussi de très très fort de pouvoir les rencontrer sur cette course là, enfin voilà, donc ça va être très fédérateur. On va essayer aussi de leur en mettre plein les yeux et surtout d'arriver tous ensemble passer cette arche et d'avoir vécu un moment extraordinaire, quoi.
Alors ça offre de belles images à venir pour les téléspectateurs. On les invitera après l'écoute de ce podcast à se brancher sur TL7 pour regarder les images de cette course. Avec, je l'espère pour vous, des conditions météo pas trop difficiles, parce que il y a du froid, il peut y avoir de la neige. Là, je sais pas, qu'est-ce qui est prévu pour cette Saint-Élion?
Pour le moment, on est encore un peu loin pour avoir une météo exacte. On a eu pas mal de pluie là ces derniers jours, donc pour le moment, les chemins sont pas mal boueux. Moi, j'aimerais éviter la pluie tout le long de la course. J'ai eu une année, c'est vraiment terrible. Je préfère avoir de la neige et de la neige, en fait. Pas du verglas, mais de la neige. Parce que j'ai aussi eu le verglas. Pour une petite anecdote, c'était il y a 2 ans, je crois. En descendant de la navette, il y a deux coureurs qui ont pas pris le départ de la course, en fait. Ils ont glissé en descendant de la navette et ils ont fini blessés. Donc, du coup, si on peut éviter effectivement le verglas, ça pourrait être voilà une bonne chose et la pluie parce que la pluie tout le long du parcours c'est démoralisant ça casse vraiment les pattes ouais, quand on est alors on va pas faire 10 à 12 heures de course tous ensemble hein, mais globalement entre les différents relais et puis on a une assistance on a quand même des amis aussi de Telcept qui vont gérer l'assistance donc ça aussi c'est peut-être sympa parce que on parlait de gestion de course mais voilà quand tu finis ton relais qu'est-ce que tu fais est-ce que tu retournes à Lyon est-ce que tu rentres est-ce que donc on a aussi ce planning de course à gérer notamment pour nos binômes parce qu'ils sont peut-être pas en capacité de tenir toute la nuit quoi donc voilà, donc on a un aspect logistique assez fort. Mais en tout cas sur les images, oui, on a prévu une émission spéciale le 2 janvier qui sera diffusée en direct hein, le 2 janvier et on reviendra pendant 42 minutes sur Saint-Élion à travers les portraits, les entraînements qui ont été faits, la rencontre des binômes, le portrait du partenaire BV Sport qui nous a accompagnés. Sur cette course de Guillaume Bailly qui est lui aussi qui a gagné le relais 3 il y a 2 ans qui nous a donné pas mal de conseils aussi pour la gestion de cette course-là donc voilà donc vraiment beaucoup beaucoup de choses sur cette émission-là et c'est aussi pour ça qu'on peut pas laisser la caméra de côté quoi.
Alors Damien, merci pour cet échange sur l'envers du décor de cette activité que tu as autour du running, à savoir la création de contenu à la fois sur Instagram, sur YouTube, le testing produit également. Moi, j'avais une dernière question avant de te lâcher et que tu nous dises sur quel support on peut te retrouver. Un instant pour toi qui serait à côté de toutes tes pompes que tu as à la maison, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas donc concentré sur la création d'une vidéo, le testing d'un produit, quelque chose qui soit en dehors de toute activité running et sportive?
Hors sportif, c'est dur, j'aurais dit jouer avec mon fils, mais c'est toujours un peu de sport parce que on a aussi un rituel après la course à pied. Souvent le dimanche matin, je m'astreins à aller faire un peu de foot avec lui. Donc voilà, donc j'ai fait une petite séance et puis derrière je vais jouer au. Alors c'est un petit foot soccer voilà, à côté de la maison, mais du coup c'est toujours assez sympa quoi.
Donc, bon, on garde le moment papa poule alors.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Alors, sur quel support les gens peuvent te retrouver? Telcept, je pense qu'ils ont compris. YouTube également. Est-ce que tu peux rappeler tout simplement les liens pour que les gens puissent venir voir et tester peut-être des produits après tes conseils?
Venez me découvrir, me redécouvrir sur ma chaîne YouTube alors, qui s'appelle Dams, plus loin El Conero en un seul mot. El Conero qui veut dire le lapin en espagnol. Et donc sur Insta, c'est Dame El Conero, cette fois-ci tout attaché. Et ensuite, si vous êtes sur ma page Insta, il y a tous les liens qui vont bien dans mon Linktree. Donc voilà, vous pouvez me retrouver là.
Et pourquoi le lapin alors?
Le lapin, parce que voilà, il y avait une certaine connotation course à pied, mais historiquement, c'est un copain qui m'avait surnommé comme ça lors d'une soirée, on avait plaisanté là-dessus, et du coup, j'avais gardé ça, puis je l'ai retransformé quand on a commencé à faire de la course à pied. Ouais.
Donc, rien de graveleux, rien à voir avec une consommation de carottes à outrance sur les ravitaillements.
Non,
c'est vraiment
non
de la blague.
C'est vraiment de la blague, ouais. C'était de la vanne, pure et dure, donc voilà, donc c'est un clin d'œil aussi avec nous.
Eh bien, Damien, merci pour ce long échange et je te souhaite donc par avance avec donc ces différentes personnes et ton binôme une belle Saint-Élion et puis au plaisir de te retrouver en direct sur TL7 donc le 2 janvier. Le rendez-vous est pris.
Merci Seb, hein, encore une fois d'avoir permis cet échange de qualité. Donc merci à tous et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée.
Eh bien, merci à toi et pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram, laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.